bord de la voiture banalisée, aucun des quatre hommes ne prononça un mot jusqu'à ce qu'ils pénètrent sur le parking du poste de police et se garent sur un des emplacements réservés aux véhicules officiels. Ralph Anderson se tourna alors vers celui qui avait été l'entraîneur de son fils. La casquette des Dragons avait glissé légèrement sur le côté, ce qui lui donnait un petit air gangsta. Son t-shirt des Dragons sortait à moitié de son pantalon, et la sueur marbrait son visage. À cet instant, il offrait l'image du parfait coupable, sauf peut-être son regard, qui soutint celui de l'inspecteur sans ciller. Ses yeux écarquillés lançaient une accusation muette. Une question taraudait Ralph. Pourquoi lui, Terry? Pourquoi Frankie Peterson? Faisait-il partie de l'équipe d'Alion cette année? Vous l'aviez repéré? Ou bien est-ce un crime fortuit? Terry faillit répéter qu'il n'avait rien fait. Mais à quoi bon? Ralph ne l'écouterait pas. Pas pour l'instant. Les autres non plus. Mieux valait attendre. C'était une torture, mais cela ferait peut-être gagner du temps à l'arrivée.
Allez-y, répondez,
insista l'inspecteur. D'une voix calme, sur le ton de la conversation.
Vous vouliez parler tout à l'heure. Expliquez-moi. Aidez-moi à comprendre, là, maintenant, avant qu'on descende de cette voiture.
Je préfère attendre mon avocat.
Si vous êtes innocent, intervint Yates, vous n'avez pas besoin d'un avocat. On verra ça plus tard. On pourra même vous ramener chez vous.
Sans cesser de regarder l'inspecteur droit dans les yeux, Terry dit d'une voix presque inaudible
« Vous commettez une faute professionnelle. Vous n'avez même pas vérifié où je me trouvais mardi soir, hein ? Je n'aurais jamais cru ça de vous. »
Il s'interrompit, comme s'il réfléchissait. Puis il lâcha.
« Salopard !»
Ralph n'avait nullement l'intention de confier à Terry qu'il avait évoqué ce sujet avec Sam Wells, brièvement. Il vivait dans une petite ville. Il n'avait pas voulu poser trop de questions, de peur qu'elles parviennent aux oreilles de Maitland.
C'est un des rares cas où nous n'avons pas eu besoin de vérifier.
Ralph ouvrit sa portière.
Venez, on va prendre vos empreintes et vous photographier avant que votre avocat...
Terry! Terry!
Au lieu d'écouter le conseil de l'inspecteur, Marcy Maitland avait suivi la voiture de police depuis le stade, dans sa Toyota. Jimmy Mattingly, une voisine, s'était proposée pour amener Sarah et Grace chez elle. Les deux filles pleuraient. Jimmy aussi.
Terry! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire?
Il se dégagea momentanément de l'étau de Yates qui le tenait par le bras.
Appelle Howie!
Il n'eut pas le temps d'en dire plus. Ramage ouvrit la porte sur laquelle était écrit « Réservé aux agents de police » et Yates le poussa à l'intérieur, sans ménagement. Ralph s'attarda un instant en tenant la porte.
« Rentrez chez vous, Marcy, avant que les journalistes débarquent. »
Il faillit ajouter « Je suis désolé pour tout ce qui arrive. » Mais il s'abstint, car il n'était pas désolé. Betsy Riggins et les hommes de la police d'État attendaient Marcy à son domicile. Néanmoins, c'était encore la meilleure chose qu'elle puisse faire, la seule en réalité. Et peut-être qu'il lui devait bien ça, pour ses filles au moins, les vraies innocentes dans cette histoire. Mais aussi,
vous commettez une faute professionnelle. Je n'aurais jamais cru ça de vous.
Ralph n'avait aucune raison de culpabiliser à cause des reproches d'un homme qui avait violé et assassiné un enfant. Et pourtant, l'espace d'un instant, il douta. Puis il repensa aux photos de la scène de crime, si monstrueuse qu'elle vous aurait fait regretter de ne pas être aveugle. Il repensa à la branche qui sortait du rectum du petit garçon, à l'empreinte sanglante sur le morceau de bois lisse, car la main du meurtrier avait serré si fort le bâton qu'elle avait arraché l'écorce. Bill Samuels avait fait deux remarques simples et pertinentes. Ralph était d'accord, tout comme le juge Carter, sollicité par Samuels pour obtenir les différents mandats. Premièrement, c'était du tout cuit. Inutile d'attendre plus longtemps, alors qu'ils disposaient déjà de tous les éléments nécessaires. Deuxièmement, s'ils accordaient un répit à Terry, ils risquaient de s'enfuir. Ils devraient alors le retrouver avant qu'il viole et assassine un autre Frank Peterson. 10. Déposition de M. Riley Franklin. 13 juillet, 7h45. Interrogé par l'inspecteur Ralph Anderson. Inspecteur Anderson. Monsieur Franklin, Je vais vous montrer 6 photos de 6 hommes différents, et je vous demande de sélectionner celui que vous avez vu derrière le Shorties, le soir du 10 juillet. Prenez votre temps. Franklin.
Pas besoin, c'est lui, le numéro 2. Coach T. J'arrive pas à le croire. Il a entraîné mon fils dans la Little League.
Inspecteur Anderson. Le mien aussi. Merci, monsieur Franklin.
Franklin. La piqûre, c'est encore trop doux pour lui. Il devrait le pendre haut et court.
11. Marcy se gara sur le parking du Burger King dans Tinsley Avenue. Elle sortit son téléphone de son sac, les mains tremblantes, et le laissa tomber par terre. En se baissant pour le ramasser, elle se cogna la tête contre le volant et se remit à pleurer. Faisant défiler ses contacts, elle trouva le numéro de Howie Gold. Non que les Maitland aient des raisons d'avoir le numéro d'un avocat dans leur répertoire, mais parce que Howie avait entraîné les équipes juniors de football avec Terry au cours de ses 2 dernières saisons. Il répondit dès la 2e sonnerie.
« Howie, ici Marcy Maitland, la femme de Terry. »
Comme s'ils ne dînaient pas ensemble une fois par mois depuis 2016.
« Marcy, vous pleurez? Que se passe-t-il ? »
C'était tellement énorme qu'elle n'arrivait même pas à en parler.
« Marcy, vous êtes toujours là? Vous avez eu un accident ?»«
Oui, je suis là. Ce n'est pas moi, c'est Terry. Il a été arrêté. Ralph Anderson est venu l'arrêter. Pour le meurtre de ce garçon, c'est ce qu'ils ont dit. Pour le meurtre du petit Peterson. »«
Hein? Vous vous moquez de moi ?»
Il n'était même pas en ville,
gémit Marcy. En entendant sa voix, elle se faisait l'impression d'être une adolescente qui pique une crise. Mais elle n'arrivait pas à se contrôler.
Ils l'ont arrêté. Ils m'ont dit que la police m'attendait à la maison.
Où sont Sarah et Grace?
Je les ai confiés à Jamie Mattingly, notre voisine d'en face. Elles vont bien.
Mais après avoir vu leur père emmener les menottes au poignet, comment pouvait-elle aller bien? Elle se massa le front, en se demandant si le volant avait laissé une marque et si cela avait de l'importance. Parce que des journalistes l'attendaient déjà devant chez elle, peut-être. Parce que, en voyant une marque sur son visage, ils en déduiraient que Terry la frappait.
« Vous voulez bien m'aider, oh oui? Vous voulez bien nous aider ?»«
Évidemment. Ils ont conduit Terry au poste ?»«
Oui, avec les menottes. » »«
Très bien. J'arrive. Rentrez chez vous, Marcy. Voyez ce que veut la police. » S'ils ont un mandat de perquisition, et je pense qu'ils sont là pour ça, je ne vois pas d'autre raison, lisez-le, pour savoir ce qu'ils cherchent. Et laissez-les entrer, mais ne dites rien, c'est bien compris, ne dites rien.
Je... Oui.
Le petit Peterson a été assassiné mardi dernier, il me semble. Un instant, je vous prie.
Marcy entendit des murmures, la voix de Howie d'abord, puis celle d'une femme, sans doute son épouse, Hélène. Howie revint en ligne.
Oui, c'était bien mardi. Où était Terry ce jour-là?
À Cap City, il est...
On verra ça plus tard. Il se peut que les policiers vous interrogent à ce sujet. Il se peut qu'ils vous posent un tas de questions. Répondez-leur que votre avocat vous a conseillé de garder le silence. Compris?
Oui.
Ne les laissez pas vous amadouer, vous forcer la main ou vous manipuler. Ils sont très doués pour ça.
D'accord. Promis.
Où êtes-vous?
Elle le savait. Elle avait vu l'enseigne. Malgré cela, elle dut vérifier.
Devant le Burger King, celui de Tinsley Avenue. Je me suis arrêté pour vous appeler.
Vous êtes en état de conduire?
Elle faillit lui avouer qu'elle s'était cognée la tête, mais s'abstint.
Oui.
Inspirez bien à fond, 3 fois, puis rentrez chez vous. Respectez les limitations de vitesse. Mettez votre clignotant. Terry a un ordinateur?
Oui, bien sûr, dans son bureau. Il a un iPad aussi, mais il ne s'en sert pas beaucoup. Et on a chacun un portable. Les filles ont leur propre iPad mini. Plus les téléphones, évidemment. On a tous un téléphone. Grace vient d'avoir le sien pour son anniversaire il y a 3 mois.
Ils vous donneront la liste des appareils qu'ils veulent emporter.
Ils ont le droit de faire ça?
Elle sentait qu'elle allait recommencer à gémir.
D'emporter nos affaires? Comme si on vivait en Russie ou en Corée du Nord?
Ils peuvent prendre tout ce qui figure dans le mandat, mais je vous demande de dresser votre propre liste. Les filles ont leur portable sur elles?
Vous plaisantez. On dirait qu'ils sont greffés dans leurs mains.
Ok. Il se peut que la police veuille confisquer le vôtre. Refusez.
Et s'ils le prennent quand même?
Quelle importance.
Ils ne le feront pas. Si vous n'êtes pas accusé de quoi que ce soit, ils n'ont pas le droit. Allez-y. Je vous rejoins dès que possible. On va arranger ça, je vous le promets.
Merci, oui.
Elle se remit à pleurer.
Merci, infiniment.
De rien, et n'oubliez pas, limitation de vitesse, stop et clignotant, compris?
Oui.
Je file au poste.
Et il coupa la communication. Marcy enclencha la marche avant, puis revint au point mort. Elle prit une profonde inspiration. Une deuxième, une troisième.
C'est un cauchemar, mais au moins, il sera de courte durée. Terry se trouvait à Cap City. Ils le constateront et ils le relâcheront.
Et après ?
Dit-elle en s'adressant à la voiture, qui paraissait tellement vide sans les rires et les chamailleries des filles à l'arrière.
On leur collera un procès au cul.
Encouragée par ces paroles, elle se redressa et retrouva toute sa lucidité. Elle rentra chez elle à Barnum Court en respectant les limitations de vitesse et en marquant bien l'arrêt à chaque stop. 12. Déposition de Monsieur George Zerny, 13 juillet, 8h15, interrogé par l'agent Ronald Wilberforce. Agent Wilberforce.
Merci d'être venu, Monsieur Zerny.
Zerny. Ça se prononce Zerny, le C est muet.
Agent Wilberforce.
Merci, c'est noté. L'inspecteur Anderson voudra vous interroger lui aussi. Mais pour l'instant, il est occupé avec quelqu'un d'autre et il m'a chargé de relever les éléments principaux pendant que c'est encore frais dans votre esprit.
Zerny. Vous allez faire remorquer cette voiture. Un Subaru. Vous feriez bien l'emporter à la fourrière avant que quelqu'un contamine les indices. Et c'est pas ce qui manque, croyez-moi.
Agent Wilberforce.
On s'en occupe en ce moment même, monsieur. Je crois que vous êtes allé pêcher ce matin.
Zerny. C'était prévu. Mais il se trouve que j'ai même pas pu mettre ma ligne à l'eau. Je suis parti de chez moi juste après l'aube pour aller à l'endroit qu'on appelle le pont de fer, vous voyez, sur Old Forge Road.
Agent Wilberforce.
Oui, monsieur.
Zerny. Un super endroit pour attraper des poissons-chats. Et un tas de gens qui n'aiment pas les pêcher parce qu'ils sont moches. Sans parler du fait que des fois, elles vous mordent quand vous enlevez l'hameçon. Mais ma femme les fait frire avec du sel et du jus de citron, et c'est rudement bon. Le secret, c'est le citron. Il faut utiliser une poêle en fonte.
Agent Wilberforce.
Donc, vous vous êtes garé à l'extrémité du pont ?
Zerny. Ouais. Bah, à l'écart de la route. Il y a un vieux ponton en contrebas. Quelqu'un a acheté ce terrain, il y a quelques années de ça. Et il a planté un grillage avec un panneau propriété privée. Mais il n'a jamais rien construit. Résultat, ces quelques hectares sont envahis par les mauvaises herbes et le ponton est à moitié sous l'eau. Je garde toujours mon pick-up sur le petit chemin qui mène au grillage. C'est ce que j'ai fait ce matin, et là, qu'est-ce que je vois ? Le grillage couché au sol, et une petite bagnole verte garée à côté du ponton. Si près de l'eau que les pneus avant étaient à moitié enfoncés dans la boue. Je suis descendu voir en pensant que le type avait foncé dans le décor après avoir quitté le bar à striptease complètement bourré la veille au soir. Je me disais qu'il était peut-être encore à l'intérieur, inconscient.
Agent Wilberforce.
Quand vous parlez du bar à striptease, vous faites allusion au gentleman, please, à la sortie de la ville ?
Zerny.
Ouais. Les types vont là-bas pour picoler. Ils glissent des billets dans les culottes des filles et quand ils sont à sec, ils rentrent chez eux bourrés. Personnellement, je vois pas l'intérêt.
Agent Wilberforce.
Donc, vous êtes descendu et vous avez regardé à l'intérieur de la voiture.
Zerny. Un petit break Subaru ouvert. Il y avait personne dedans. Mais il y avait des vêtements tachés de sang sur le siège du passager. Et j'ai pensé immédiatement à ce petit garçon assassiné, car ils ont dit aux infos que la police cherchait une Subaru verte, en rapport avec ce crime.
Agent Wilberforce.
Avez-vous vu autre chose ?
Zerny. Des baskets, sur le plancher, côté passager, avec du sang dessus.
Agent Wilberforce.
Avez-vous touché à quoi que ce soit ? Avez-vous essayé d'ouvrir la portière, par exemple ?
Zerny.
Bien sûr que non. Ma femme et moi, on ne loupait jamais un épisode des experts quand ça passait.
Agent Wilberforce.
Qu'avez-vous fait ?
Zerny.
J'ai appelé la police.
13. Terry Maitland attendait dans la salle d'interrogatoire. On lui avait ôté les menottes afin que son avocat ne fasse pas un scandale en arrivant, ce qui allait se produire d'une minute à l'autre. Ralph Anderson, campé sur ses jambes, les mains nouées dans le dos, tel un soldat au repos, observait l'ancien entraîneur de son fils par le miroir sans teint.
Il avait renvoyé Yates et Ramage.
Il s'était entretenu par téléphone avec Betsy Riggins, qui l'avait informé que Madame Maitland n'était pas encore entrée. Maintenant que l'arrestation avait été effectuée et que la tension était un peu retombée, Ralph éprouvait un sentiment de malaise face à l'emballement de cette affaire. Terry affirmait avoir un alibi. Cela n'avait rien d'étonnant, et sans doute se révélerait-il fragile. Néanmoins...
Hé, hey, Ralph !
Bill Samuels avançait vers lui d'un pas rapide, en ajustant son nœud de cravate. Ses cheveux étaient noirs comme du cirage, et courts, mais l'épi qui se dressait sur l'arrière de son crâne le faisait paraître encore plus jeune. Ralph savait que Samuels avait déjà instruit une demi-douzaine de dossiers concernant des meurtres passibles de la peine de mort, toujours avec succès, et que deux de ses condamnés, ces gars, comme il les appelait, attendaient actuellement leur exécution dans le couloir de la mort à la prison de McAllister. Tout cela était parfait, et ça ne pouvait pas faire de mal d'avoir un jeune prodige dans son équipe. Mais ce soir, le procureur de Flint County offrait une étrange ressemblance avec Alf Alpha dans la vieille série des Petites Canailles.
« Hello, Bill. »« Alors le voilà donc, »
dit Samuels en observant Terry.
« Ça ne me plaît pas de le voir avec ce maillot et cette casquette des Dragons. Je serai content quand il aura enfilé un joli uniforme de détenu, et encore plus quand il sera dans une cellule à quelques mètres de la table du grand sommeil. »
Ralph ne dit rien. Il repensait à Marcy, plantée à l'entrée du parking de la police telle une enfant perdue, se tordant nerveusement les mains et le regardant comme s'il était un parfait inconnu, ou le croque-mitaine. Mais le croque-mitaine, en l'occurrence, c'était son mari. Comme s'il lisait dans ses pensées, Samuels dit
« Il n'a pas une tête de monstre, hein ?»
C'est rarement le cas. Le procureur sortit de sa poche de veste plusieurs feuilles de papier pliées, parmi lesquelles une photocopie des empreintes digitales de Terry Maitland, provenant de son dossier d'enseignant au lycée de Flint City. Tous les professeurs devaient faire relever leurs empreintes avant de pénétrer dans une classe. Les deux autres feuilles portaient la mention « Examen forensique ». Samuels les agita à bout de bras.
« Tout nouveau, tout beau. »
« L'analyse de la Subaru ?»«
Oui. Les types du labo ont relevé plus de 70 empreintes, dont 57 appartenant à Maitland. D'après le technicien qui a effectué les comparaisons, les autres empreintes, plus petites, sont probablement celles de cette femme de Cap City qui a déclaré le vol de sa voiture, il y a 15 jours. Une certaine Barbara Nearing. Les siennes sont beaucoup plus anciennes, ce qui signifie qu'elle n'a pas participé au meurtre du petit Peterson.
Ok. Mais il nous faut l'ADN. Maitland a refusé le prélèvement buccal. Contrairement au relevé des empreintes digitales, le prélèvement d'ADN dans la bouche était considéré comme invasif dans cet état.
Vous savez bien qu'on n'en a pas besoin. Riggins et ses hommes confisqueront son rasoir, sa brosse à dents et tous les cheveux qu'ils trouveront sur son oreiller.
Ça ne suffira pas si on ne peut pas comparer ces échantillons avec ceux qu'on peut prélever ici. Samuels l'observa, la tête penchée sur le côté. Non, songea Ralph. Il ne ressemblait pas à Alf Alpha, des Petites Canailles, mais à un rongeur d'une très grande intelligence, ou à un corbeau ayant repéré un objet brillant.
Auriez-vous des doutes, inspecteur ? Je vous en supplie, dites-moi que ce n'est pas le cas. D'autant que ce matin, vous étiez aussi impatient que moi.
Je pensais à Derek à ce moment-là. C'était avant que Terry me regarde droit dans les yeux, comme s'il en avait le droit. Et avant qu'il me traite de salopard. Une insulte qui aurait dû glisser sur moi, et pourtant...
Non, je n'ai pas de doute. Simplement, cette précipitation me gêne. J'ai l'habitude de bâtir un dossier pièce par pièce. Je n'avais même pas de mandat d'arrêt. Si vous surpreniez un gamin en train de vendre du crack dans le parc, vous auriez besoin d'un mandat ?
Non, bien sûr, mais c'est différent.
Pas vraiment. Néanmoins, il se trouve que j'ai un mandat signé par le juge Carter avant l'arrestation. Il doit vous attendre dans votre télécopieur. Eh bien, si on allait voir ce que Maitland a à nous dire.
Les yeux de Samuels brillaient plus que jamais. Je pense qu'il ne voudra pas nous parler.
Probablement.
Samuels sourit, et dans ce sourire, Ralph vit l'homme qui avait envoyé deux meurtriers dans le couloir de la mort, et qui, Ralph en était convaincu, y enverrait bientôt l'ancien entraîneur de Derek. Un gars de plus dans la bande de Bill.
« Mais nous, on peut lui parler, non ?»
dit Samuels.
« On peut lui montrer que les murs se rapprochent, et qu'il va finir écrabouillé,
façon confiture de fraises.